c'est-à-dire le sacrifice vu comme transfiguration, et le sacrifice qui serait vu par les humains comme simple meurtre,
oui.
Donc quelque chose de scandaleux.
Absolument.
Mais d'abord, je voudrais savoir si dans le judaïsme, il est possible qu'il y ait d'un fait une double interprétation, c'est-à-dire un sens pour Dieu et un sens pour les humains. C'est-à-dire Dieu qui...
Bien sûr.
Qui se séparerait quant à l'interprétation de la fée. Mais d'autre part, en ce qui concerne cette mort transfigurée, ce serait comprendre et expliquer un petit peu un meurtre comme quelque chose finalement qui serait positif. D'une façon ou d'une autre, un meurtre qui serait positif. Et je crois que là, c'est quelque chose qui est difficilement. Difficilement acceptable, quelle que soit l'interprétation. Parce que je crois précisément, comme le pense M. Philippe Solaire, je crois qu'il y a une tradition des sacrifices des enfants dans les mythologies, Moloch, Baal, etc.
Oui,
et que justement, ce qui se passe avec Isaac, c'est qu'on suspend le meurtre. C'est que peut-être pour la première fois, on suspend le meurtre et que justement on proclame la sagesse et fait pour la vie et non pour la mort. Et donc c'est cette voie sublime qui est trouvée toujours le triomphe de la vie et jamais la mort. Et je crois que c'est une voie sublime qui précisément vient contredire tout ce qui se fait et j'ajouterais même tout ce qui se dit. Parce qu'il y a tout de même quelque chose d'étrange. Il y a tout de même quelque chose d'étrange, c'est que ce thème de la mort comme étant quelque chose de positif, eh bien c'est un thème qui circule tout de même étrangement en notre siècle. Je veux dire, on le trouve par exemple chez pas mal d'auteurs qui disent que finalement, bien sûr, il y a des crimes, il y a beaucoup de crimes, mais somme toute, les crimes sont positifs parce que ça déblaye en quelque sorte, et que si nous sommes là en train de discourir, c'est parce qu'il y a de la place. C'est parce qu'une certaine place s'est faite pour nous, et à cause des morts qui ont lieu. Et d'autre part, il y a Goldman. Goldman qui dit, comment expliquer que Goldman m'a dit que sans doute le bilan des rapports entre les Allemands et les Juifs est sans doute un bilan positif.
Je vous demanderai d'être très bref, s'il vous plaît, dans la question posée.
C'est moi qui vais répondre. Dans d'autres questions.
D'autres questions, s'il vous plaît. Les orateurs répondront chacun à leur tour pour l'ensemble.
Je suis interpellé.
Monsieur.
Pardon ?
Lors de la réunion, vous avez été problème du rachat par le sacrifice. En doutant de cette possibilité, la conversion privée, bien dit en tant que rationaliste, cela me posait un problème. Ma question est simplement celle-là. J'ai relu ce soir Isaïe 53. Isaïe 53, pour voir cela, c'est un peu comme son prince, c'est un peu. Il est écrit dans la situation que j'ai. C'est ma question.
Oui. À qui est-ce que je n'ai pas bien compris.
Oui, c'est à moi, M. René Sirac. Voilà. Vous avez mis sur le même plan l'erreur ou la faute, ou les paroles, l'échec de Joseph dans cette relation. Et dans la tradition, on dit toujours que Joseph est vaincu, et d'autant plus, et là je termine, et d'autant plus que lorsque tu as indiqué la mère de Jésus-Christ qui se tourne vers le peuple dans toute ce verset et la faille à l'île de Joseph dit que je cherche mes frères.
Jean Zacharie.
D'autres questions?
On aura, bon, j'espère, un visage ultime pour éviter la transfiguration du monde. Pour la conscience de la rédaction du monde. Alors, je voudrais que je ne vois mal la différence. Et j'aimerais également savoir si dans le perspective du visage, il n'y a pas un piège dans lequel le monde chrétien serait tombé, puisqu'il y a les rédacteurs des évangiles, et même.
C'est une question pour toi.
Une autre question, si vous voulez, je vous
levez-vous, monsieur, s'il vous plaît,
je vous demande.
Je dis que pas de parallélisme entre le prophétie d'Isaac et de la constitution. Je crois que ça ne va pas compris, mais je me pose la question.
C'est pas un micro, ça. Le fait que j'ai saisi avec ça. Je vais saisir.
Isaac n'a pas eu lieu, un tiers du peuple juif de ce temps disparaît en la personne de ce temps. C'est-à-dire que Abraham devient veuf. Et durant le locus des juifs pour les nazis, aussi un tiers du peuple juif est anéanti. Et pourtant, nous sommes toujours là. Est-ce que c'est ça que vous dites que le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu?
À qui posez-vous la question? À tout le monde. Bien sûr.
Je voudrais poser une question à David Messard. Manitou a bien montré dimanche à la lumière du commentaire du meilleur Hachemèche comment l'épreuve de la ligature d'Isaac pouvait être nécessaire par la confrontation de la Midat Hesed et de la Midat Din. Je ne sais pas si j'ai bien suivi les explications du Rav Dessler, mais j'avoue qu'à la lumière de son explication, je ne vois pas très bien où se situe la nécessité de l'épreuve. Je l'entrevois peut-être au niveau d'Abraham, mais au niveau de Yitzhak, je ne la vois pas du tout.
D'autres questions? Bien, alors nous allons passer à...
Je me demande si la différence d'opinion des positions de l'université nazi David Messard est vraiment aussi irréductible qu'il y paraît. Car enfin, il y a les textes qui ont toujours raison et les maîtres dont Léon Askenazi, Jean-Paul Gordin d'abord, Léon Askenazi ensuite, ont appris que on ne connaît la vérité que lorsqu'on a mis d'accord les textes. Il est bien évident que Rashi connaît les Midrashim sur lesquels semble s'appuyer le Rav Dessler. Il est bien évident que Rav Dessler connaît le Rashi que Léon Askenazi a cité. Il fallait donc de savoir à quel niveau se placent les différents commentateurs lorsqu'ils parlent de cela. Très brièvement, c'est ma question à Léon Askenazi et à David Messard. Ne pourrait-on pas schématiquement comprendre de la façon suivante, lorsque Rashi, dans le commentaire des prophètes, cité dans Askenazi, dit il n'a jamais été question pour Dieu de demander un sacrifice, c'est effectivement le début du texte de la Bible, et David Messard nous a bien dit, lui-même avant-hier, il a répété aujourd'hui, il n'y a jamais marqué que Dieu demande un sacrifice, il demande une montée.
Très bien.
Donc, au niveau de Dieu, c'est ça, je pense que Rashi veut faire comprendre, ne croyez surtout jamais que Dieu est capable de demander effectivement qu'il y ait sacrifice.
Maintenant, au niveau d'Abraham, qui se trouve devant l'épreuve vis-à-vis d'Israël, il peut y avoir cette tentation que lui enseigna sûrement lui-même dans ses cours, de ne pas vouloir renoncer au sacrifice. Il a dit, qu'est-ce qui est plus dur pour Abraham ? Sacrifier Isaac ou renoncer à son sacrifice ? Donc, peut-être que Rashi explique, ne croyez pas que Dieu puisse demander un sacrifice. Rav Dessler, en citant un ami de Rashi, dit, peut-être Abraham a voulu, lui, aller plus loin, mais c'est Dieu qui intervient. Et c'est Dieu qui empêche. Ce qu'Abraham a pu vouloir faire pour une transfiguration basée sur sa midrashim, qui l'empêche de le faire.
Non, mais il essaie de concilier. Une réponse.
Oui, madame, c'est là. Je
n'est pas d'accord. Bien.
On commence à répondre.
Tu veux commencer?
Oui, très brièvement pour la question de Michel Prince. Et je m'appuierai sur ce qu'a dit le premier questionneur, je ne sais pas comment dire. Ce serait une conciliation possible, mais Rav Dessler ne serait pas d'accord d'après ce qu'il a écrit. En fait, il y a là bien deux thèses qui s'opposent. Je vous propose de laisser cela en séminaire d'exégèse, si vous voulez, parce que vous n'avez pas les textes sous les yeux. Et je voudrais répondre de la manière suivante. À mon sens, et en récapitulant l'exégèse elle-même, Et cela ressort d'une conversation à bâton rompu que nous venons d'avoir en quelques demi-phrases, M. Solaire et moi-même. Et le Dieu qui parle dans la Bible a le droit de faire savoir qu'il n'est pas comme les dieux des paganismes, celui qui réclame les sacrifices humains. Et c'est ça qui se passe dans le pshat, dans le texte obvi de ce chapitre 22 de la Genèse, de Akedat Yitzhak et de ses commentateurs traditionnels. La thèse du Rav Dessler a son sens pour elle-même dans un enseignement de spiritualité, de piétisme, de direction d'enseignement pour la sève spirituelle et la vie intérieure. Au fond, le décalage qu'il y a entre ces deux positions, c'est que je me préoccupe beaucoup plus de la réalité dans l'histoire, de la réalité dans le monde concret, alors que le Rav Dessler enseigne pour les réalités non moins réelles de la vie intérieure. C'est peut-être là qu'est le décalage. Deuxièmement, pour une autre question, vous m'excuserez si je ne me rappelle plus exactement de quel coin cela vient. Oui, pour votre question. Donc, le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. Et nous savons aussi expliquer ce que disent les Midrashim qui disent, mais qu'il est quand même mort et ressuscité dans l'instant, un certain niveau de sa personnalité a été ligoté et disparu du monde. C'est le caractère entier de ce que cette manière d'être tzaddik, le juge de la vertu de rigueur, pouvait être chez Isaac avant la péripétie que raconte quelque chose et a été expulsé de l'identité hébraïque. La tentation de devenir cet homme d'un juridisme assassin, on peut condamner n'importe qui au nom de la loi. Cela a été arraché de la conscience hébraïque, cela est mort. Bien entendu, il fallait sacrifier cela. Je vous renvoie aux analyses que nous avons eues en particulier dimanche après-midi. Le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu dans le récit du chapitre 22. L'assassinat contemporain des Juifs a eu lieu. Mais ça n'a rien à voir, c'est tout à fait autre chose, et c'est ce que j'essayais de faire comprendre. Et je ne peux pas oublier, même si le Rav Dessler n'a pas à s'en préoccuper, que nous vivons dans une civilisation donnée, la civilisation de l'Occident où se passent ces choses. Et bien que je suis obligé de parler très rapidement, je crois que nous devons dire à voix haute qu'il y a une partie de responsabilité dans cet assassinat qui vient du mythe de la crucifixion. Et par conséquent, il faut expulser ça une fois pour toutes, de notre compréhension. Ça n'a aucun rapport. Et le mot, comme a dit aussi M. Soler, c'est d'autres, le mot holocauste employé pour dire ce qui s'est passé au temps de la Shoah, ce Khurban, cet assassinat crapuleux, ça trompe, c'est de la mystification. C'est pourquoi je tenais à faire cette mise au point. L'assassinat a eu lieu. Qu'en est-il de l'attitude de la piété traditionnelle? Et on pouvait citer Et cela pourra être fait par les historiens présents dans la salle, énormément de cas ponctuels où effectivement des juifs menés à cet abattoir, menés à la chambre à gaz, ont considéré qu'ils allaient faire un sacrifice. Et ils ont voulu assumer en piété totale ce qui se passait pour le transfigurer. Mais c'est a posteriori, parce que la catastrophe est arrivée, et pour lui donner un sens, en dépit de son non-sens. Mais ça, c'est le sur-héroïsme de piétisme de ces victimes, mais jamais la tradition juive elle-même, jamais la tradition juive, a priori, ne nous demande cela. Si ce malheur arrive, alors cet héroïsme de piété fait que on va quand même lui donner un sens, mais sans jamais justifier les assassins et les coupables, et ça n'a donc rien à voir non plus avec le sacrifice d'Isaac, c'est autre chose. Je vais simplement indiquer en relation à ce thème un autre principe pour finir de terminer de répondre à votre question. C'est à l'échelle collective, en tant que peuple éternel et inassassinable, en tant que, je ne sais pas comment dire, en tant que partenaire de cette alliance du pacte de la Torah avec le Créateur, que Israël est rescapé de cette catastrophe, à ce niveau-là. Mais au niveau de la destinée des individus, nous devons nous taire, parce que les individus ont été victimes. C'est la collectivité d'Israël qui a été sauvée.
Je crois que Manitou a répondu à un certain nombre de questions qui étaient adressées. Je voudrais revenir sur une idée que je voudrais développer ici, mais très rapidement. C'est qu'on est très préoccupé par les problèmes d'actualité. On est très préoccupé par les problèmes contemporains, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut se méfier de la projection, de la signification que nous voudrions donner en fonction des problèmes contemporains sur les textes de la Bible. Il m'est toujours très difficile de dire la solution du problème contemporain, elle est là, dans tel événement, elle peut être suscitée, enfin elle peut être, on peut la regarder comme ça d'une manière oblique, etc. Mais il est très difficile de dire que voilà, l'événement contemporain est là, et sa signification est dans tel mythe ou telle autre chose. Enfin, personnellement, ça me paraît toujours extrêmement difficile. Il est vrai que les mythes de toutes les civilisations se retrouvent en grande partie dans la Bible aussi. Le mythe de la traversée de la mer Rouge, ou le mythe d'un monde englouti dans les eaux, le mythe des sacrifices, etc., ce sont les mêmes mythes que l'on retrouve dans les genèses des civilisations et que l'on retrouve quelquefois dans la Bible aussi. Le plus important, à mon avis, c'est de quelle manière est-ce que ce mythe a été conservé dans notre mémoire historique ? De quelle manière est-ce qu'il a gardé sa signification pour nous ? Nous n'avons, ça il faut le savoir, notre civilisation, enfin la mentalité juive, est une mentalité qui n'a jamais été préoccupée par la mort et qui n'est préoccupée que par la vie. Elle n'est préoccupée, c'est le Bilaam qui a dit « Tamot nafshi motesharim » Le seul Bilaam qui est venu, dès qu'il a vu Israël, il dit je voudrais mourir comme un juif. Et le Chafetz Chaim, le grand maître de la dernière génération, il dit pour mourir comme un juif, il faut vivre comme un juif. Il dit c'est Bilaam, il aurait voulu mourir comme un juif, mais pas vivre comme un juif. Nous, notre problème, ce n'est pas du tout le problème de la mort, mais c'est le problème de la vie, c'est Aetz Hachaim. C'est Esav qui disait Inne anochi holech lamut. Voilà que je vais mourir et je ne suis préoccupé que par les problèmes de la mort, alors que Yaakov, il n'est préoccupé que par le problème de la vie, que par les motifs qui peuvent toujours lui donner un sens profond de la vie. Donc ces deux éléments font que il est impossible que quelqu'un ici puisse croire que l'on puisse trouver dans un mythe ancien, très ancien, dans nos civilisations pour qu'on puisse faire croire qu'un meurtre pourrait être positif. Vous comprenez ? Ça, c'est quelque chose qui est loin de notre civilisation. Il ne s'agit pas d'un meurtre. Il s'agit d'une transfiguration de l'idée de la mort. Et j'insiste encore là-dessus. Mourir, c'est détruire quelqu'un pour le réduire à néant. Il s'agissait ici d'une action qui n'avait rien à voir avec l'acte de la mort, avec la mise à mort. Il s'agit d'une transfiguration pour que l'on puisse vivre d'une autre manière et participer à l'éternité. C'est tellement vrai qu'Abraham a dit que nous allons revenir ensemble. Donc il fallait concilier cette contradiction, à la fois mourir et revenir. Et de quelle manière? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette histoire de Parcha Nishmatam. Donc jamais idée de mort, jamais idée de suspension de la mort. Si elle est comprise comme une suspension de la mort, c'est parce que nous sommes encore comme cette salle aujourd'hui, qui est tout à fait, vous voyez ici, un sentiment de malaise que l'on puisse dire que le meurtre aurait pu avoir lieu. Vous voyez, ils ne sont pas, comme la génération d'Abraham, capables de comprendre que l'on puisse vivre dans une situation de transfiguration de la mort. Nous ne voyons dans les choses que leur signification propre. Il y a mort, donc il y a mort, il y a ceci et cela, et on arrive à le comprendre. Vous savez, si on arrive à ce niveau-là, effectivement, il peut y avoir une révolte contre la signification de la vie. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Il s'agit de la mort. Les mots sont les mots, mais dans une action transfigurée qui nous aurait fait participer à une forme d'éternité où nous serions plus préoccupés par la mort biologique. Vous voyez ? C'est difficile à comprendre, ça je comprends. Mais... Non. Mais Ravdessler a été extrêmement précis pour se situer dans cette signification qui fait que toute la Akedat Israël était ici un dépassement du néant de la mort. Voyez, et que le judaïsme ne doit jamais être préoccupé par la mort comme une fin, mais au contraire, la mort n'est qu'un accident biologique et que la participation à l'éternité, elle est au-delà de cet acte. La mort n'est jamais positive. Le meurtre n'est jamais positif. Ça, c'est une chose absolument qui est fondamentale dans le judaïsme.
Très bien. D'accord.
Voilà. Nous sommes d'accord.
Ah, qui sait de quoi cette question d'accord. Ah, le Messie souffre.
La souffrance rédemptrice. Ah, c'est ça. Ouais. Tu veux répondre?
Si tu veux.
Attends, on va revenir tout à l'heure.
Oui.
Vas-y, réponds d'abord, réponds.
Je voudrais brièvement répondre à Joël Ashkenazi. Et je n'ai pas le temps ce soir de reprendre longuement l'analyse que j'ai faite dimanche, où j'avais effectivement présenté les différents personnages bibliques dans cette perspective justement du génie, c'est-à-dire de la disposition fondamentale de l'homme vis-à-vis de Dieu. Or, nous faisons la recherche dans les textes bibliques, je reprendrai donc très très brièvement pour répondre à la question. Nous avons Inéni qui apparaît environ 160 fois dans la Bible. La plupart du temps, s'agissant de Dieu. Inéni, Mevi, et Ramabul Maïm, Abani, Inéni, Beriti et Techem, donc le châtiment des méchants, le déluge, et ensuite l'alliance, l'arc-en-ciel, est précédé finalement de Ani, je, celui qui peut dire je, c'est-à-dire Dieu, je vais, etc., etc. Il y a quatre personnages qui ont dit l'inéni à l'appel de leur nom. Vayomer Abraham, Vayomer Inéni, et cela est repris dans le même chapitre 22 une seconde fois. Abraham, Abraham, Vayomer Inéni, Vayomer Adishlari Atraïama. Par conséquent, il y a là donc le premier personnage. Le second, je l'ai dit très brièvement, je le reprends. C'est Jacob, au moment de la grande peur, lorsqu'il doit aller en exil à nouveau en Égypte, et Dieu lui dit, « Vayomer Jacob, Yaakov, Vayomer Mineni, Vayomer Al-Tira, mère d'Amitraïma, ne crains rien, tu peux descendre en Égypte, car finalement, Annie, je te ferai remonter de l'Égypte. » Le troisième personnage sera effectivement Moïse, au moment du buisson ardent, Moshe, Moshe, Vayomer, Ineni, et le quatrième est Samuel, lorsque la parole de Dieu était extrêmement rare à l'époque biblique, à l'époque de Or, nous avons également quatre personnages qui ont répondu, mais qui ont répondu, Ineni, non pas à Dieu, mais à un être humain. Même si cet être humain, c'est effectivement leur père, c'est-à-dire celui qui représentait pour eux la valeur suprême, il y a donc une sorte de déification du père. Le premier personnage pour lequel c'est l'échec, c'est Ésaü. Isaac dit à son fils, « Vayomer beni, vayomer hineni. » Vayomer, karna, et donc Isaac dit à son fils, « Mon fils, et Isaac, et Ésaü répond, « Hineni, je n'aurais pas dû répondre ça à son père, et Isaac veut lui donner la bénédiction, bénédiction que finalement Isaac n'aura pas. » Il en va de même à propos de Joseph, c'est pas du tout un lapsus. Joseph, lorsque son père lui dit « Lecha ve'eshlachacha alehem, je vais t'envoyer vers tes frères, va yomer hineni, répond à son père, hineni, et par conséquent c'est l'échec, parce qu'effectivement c'est le moment où les frères vont voir apparaître Joseph et vont par conséquent le vendre ensuite en Égypte. Le troisième personnage sera le pharaon, qui a dit « Hineni omed al sepatai or » je me trouvais présent dans le fameux songe du pharaon sur le bord du rivage, et ensuite Joseph aura donc à ce moment-là à intervenir. Donc en quelque sorte, c'est le Joseph d'avant l'épreuve qui a commis l'échec, et c'est ce qui explique finalement sa vente en Égypte et son départ, et le fait qu'il est éloigné de son père pendant tant d'années. C'est le même Joseph qui lui ensuite fera le Tikkun, qui sera ensuite le vice-roi d'Égypte et celui qui permettra à Jacob et à ses frères de subsister au moment de la famine. Mais le Joseph de l'échec, c'est le premier, celui qui va y aller, Yosef et Batam, Réa et Abiem, et les correspondances sont parfaitement claires, puisque le troisième personnage, donc, ce sera le pharaon, et le quatrième sera le faux prophète. Il est le vrai prophète lorsqu'il bénit Israël sur l'ordre de Dieu, malgré ses sentiments de haine pour Israël, mais au moment où il va s'en aller, Bilaam dit à Balak, « Hineni, Olech et l'ami, je m'en vais retourner vers mon peuple, Lera et Asra, je vais te conseiller, et si nous avions le temps, nous ferions une analyse de ce verbe Lera, et qu'il se retrouve tout au long de nos textes, je vais te conseiller ce que fera ce peuple au tien dans à la fin des temps, vers Harit Ayamim, et c'est finalement l'échec du Baal-Tor, le crime du Baal-Tor, et tout ce qui s'en est suivi. Par conséquent, nous voyons là un parallélisme parfait entre les personnages qui ont réussi l'épreuve lorsqu'ils ont répondu à Dieu, et l'échec de ceux qui, même lorsqu'il s'agit de leur père qui est respecté particulièrement, ont confondu la notion de disponibilité vis-à-vis d'un être humain quel qu'il soit et la notion de disponibilité qui ne doit être vis-à-vis de l'homme, pour l'homme, que vis-à-vis de Dieu.
Bon, ça c'est bien. Je m'excuse. Correspondant, nous en avons déjà parlé de la témoin. Thème extrêmement important. Je crois que ça vaudrait la peine de consacrer une séance séminaire sur le thème lui-même. Mais très provisoirement, je me permettrai quand même d'être un peu d'accord avec Joël sur la question de Joseph. Parce que lorsque nous revoyons les textes, sur la question de Joseph en particulier, je ne parlerai pas des autres, ça vaudrait la peine de revenir sur l'ensemble du problème. Lorsque Joseph a dit Hineni, d'après les versets, c'est lorsque Jacob l'envoie pour entreprendre cette longue marche qui va aboutir à faire la paix dans la famille de Jacob. Il l'envoie en lui disant « Ure et shalom achecha et shalom atzon » et Joseph ne se dévoile à son père en Égypte que lorsqu'il peut dire « Ve'atem alu le shalom el abichem » et il y a, je crois, là un aspect positif. Mais enfin, nous aurons, j'espère, l'occasion d'en discuter et d'y revenir. Oui. Oui, c'est
joli. Est-ce que le fait de dire que Némi, ça veut dire que c'est mon père, c'est une interprétation? Je ne vois pas très clairement le fait de dire. dire à son père, qui est dans lequel je ne crois pas que c'est la même qu'on a eu, le fait de dire à son père, ou bien se loger l'idolâtrie. Il aurait dû dire non, non, il aurait dû dire non, pas me voici. Me voici,
mais
tu es en place de le
faire. On avait, non, de la réponse. On prend tout ça. D'accord.
Monsieur Sonnet.
Non, parce que c'est quand même une parenthèse par rapport à ce que je lui dis.
Je vais tout de même essayer d'insister sur ce qui précède ce fameux chapitre 22 dont on ne semble pas vouloir parler. C'est très important pour cette question de savoir justement de quel père il s'agit dans tout ça. C'est une épreuve, je pense, de Saint-Évite d'Isaac sur précisément la fonction paternelle. Le Dieu de la Bible, me semble-t-il, comme l'a dit tout à l'heure Marcel, c'est un Dieu qui veut se distinguer sans cesse des autres dieux. En somme, on pourrait presque dire que dans ce chapitre 22, il provoque Abraham à faire l'épreuve que son fils n'est absolument pas à prendre au niveau justement biologique, qu'il ne s'agit nullement de quelque chose d'animal, c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce chapitre. Et c'est pour ça qu'un bélier, finalement, se trouvera là pour bien mettre les choses à leur place. J'insiste sur le fait que ce fils est un enfant qui n'est pas dans la série biologique commune, qu'il porte comme nom l'incrédulité ravie de ses parents qui se sont mis à rire lorsque Dieu leur a dit qu'ils allaient avoir un enfant, un fils. Et je m'étais permis de dire que le problème était de savoir s'il s'agissait du même rire chez Abraham et chez Sarah, s'ils avaient ri du même rire. Autrement dit, il me paraît important quand même de parler des femmes dans cette affaire pour mieux comprendre de quel Dieu et par conséquent de quel père il s'agit. C'est pour ça que je crois que ce thème, n'est-ce pas, chapitre 22, est important. Il s'agit de savoir, comme le dit le Zohar, pourquoi on peut, une interprétation très profonde à mon avis, très profonde parce que c'est précisément le début du chapitre 23 qui suit, pourquoi le Zohar se permet de dire « Sarah est morte pour Isaac ». Il y a quand même le fait que ce sacrifice d'Isaac est suivi d'une mort par celle d'Isaac. C'est pas la peine, à mon avis, de se demander si Isaac est mort, puisqu'il réfléchit dans l'instant, si ceci, si cela. Il suffit de voir quand même que dans le chapitre 23, eh bien, Sarah meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cela la question que je me permets de poser avec insistance. De quel côté sont les femmes et de quel côté sont les hommes dans cette affaire de Dieu? C'est pas le même côté. Il faudrait qu'un thémasie dise quelque chose là-dessus.
Bien. Écoutez, vous nous proposez aussi, c'est pas un tic, le sujet de toute une série de séminaires. Mais je vais essayer, moi, de vous proposer tout simplement une ligne de lecture à travers la question de M. Soler. Le Midrash Rabbah, et bien entendu le Zohar, le Midrash Rabbah nous explique que c'est au moment même où se passe la scène du sacrifice non consommé de Isaac que Sarah meurt.
Voilà.
Et
alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà. Et alors, Isaac Shabbat a un thème extrêmement important. Il s'appuie sur un verset qui dit Vezara Hashemesh ou Ba Hashemesh. Le soleil s'est couché, le soleil s'est levé. Et le thème général est le suivant. Jamais dans le monde ne disparaît une lumière sans qu'au même moment n'apparaisse la lumière qui va prendre suite. Et dans ce cas-là, le Midrash nous dit que c'est au moment même où Sarah est morte que Rebecca est née. C'est-à-dire qu'un premier cycle d'enlombrement a réussi, puisqu'Isaac est devenu ce qu'il devait être,
Alors Sarah disparaît comme Sarah, mais revient comme Rebecca qui sera la femme de Isaac. Il y a une allusion d'ailleurs au lien de Isaac à sa mère Sarah à travers sa femme Rebecca, lorsque le verset dit que lorsque à la rencontre du chidour, comment dit-on ça en français, l'entrevue de mariage entre Isaac et Rebecca, Rebecca a été amenée par Isaac dans la tente de Sarah, sa mère, et que sa femme Rebecca l'a consolée de la disparition de sa mère Sarah. Jusque-là, je cite. Je vais vous proposer une très brève interprétation. C'est-à-dire que cet engendrement qui se cherche, je voudrais bien retenir l'expression que vous avez dit tout à l'heure, on la retrouvera, vous allez la dire, lorsque Isaac est né.
Incrédule
et ravi. C'est exactement cela. C'est l'identité d'Israël qui est en train d'émerger. Et alors, il y a des étapes. Israël, c'est Jacob nommé Israël. Il y a différentes étapes. Ça commence avec Abraham. Et puis, mutation énorme d'Abraham vient Isaac. Mutation énorme d'Isaac viendra Jacob. Dans les difficultés énormes que le texte nous raconte et tous les conflits Isaac, Ishmaël, Jacob, Ésaü, etc. Et voilà qu'il y a d'étape en étape une mutation de la matrice elle-même, de la matrice dans l'engendrement. Cette matrice, vous excuserez l'expression, mais j'ai bien conscience de dire ce que je veux dire là, cette matrice qui engendre l'identité Israël et qui est simultanément éternellement vierge et éternellement féconde, mais c'est dans la réalité de l'histoire, pas dans le mythe, parce que c'est ça l'histoire d'Israël, et qui est éternelle. Et elle est d'abord Sarah, ensuite elle est Rebecca. Il s'est passé quelque chose dans ce sacrifice. Une mort, celle de Sarah, mais dans le même temps, une résurrection, celle de Rebecca. C'est la femme qui se modifie en tant que matrice pour pouvoir arriver à engendrer Jacob qui deviendra Israël. Ça, les dernières phrases, c'est donc une interprétation, mais vous avez absolument raison d'avoir mis cela en évidence. Voici ce que je me permettrai d'ajouter en me basant sur un faisceau considérable de textes, mais je voudrais citer le nom du maître qui m'a transmis en fait l'essentiel de la lecture, qui est le Rav Levi Nachmani de Jérusalem, et qui nous dit ceci très très rapidement, en séquence. Adam, Ève, la Torah ne nous dit pas qu'ils se sont parlé, qu'ils se sont aimés. Sans doute qu'ils se sont parlé, ils se sont dit je t'aime, mais la Torah ne l'a pas dit. Et aimé Caïn. Ensuite, la tikkun, je ne veux pas dire rédemption, mais vous comprenez, la restauration de cet échec, de l'irruption de l'homme de violence, Caïn, parce qu'il n'est pas le fils de l'amour, pas encore, commence avec Abraham. Et dès que Abraham entre dans le texte, le mot de frère et de sœur revient à profusion. Abraham et Sarah, ils se parlent. Et qu'est-ce que dit Abraham à Sarah l'essentiel? Tu es ma sœur, j'ai découvert ça. C'est sa femme. Il a découvert qu'elle est sa sœur. Et puis, on ne nous dit pas que Abraham a aimé Sarah. Sans doute il l'a aimé, bien sûr. Jusqu'à lui dire tu es ma sœur. Mais la Torah ne l'a pas dit. Voilà que pour Isaac, il est dit, Isaac a aimé Rebecca, mais ça l'a consolé de sa mère. Né Ésaü et Jacob, mais c'est pas fini. Et puis voilà, la chose extraordinaire. Jacob aime Rachel un point. Alors naît Joseph, qui est le Joseph de ses frères, c'est-à-dire l'homme capable d'être fraternel. Vous avez absolument besoin de dire qu'il y a non seulement la ligne des pères, mais cette ligne très importante des femmes et des mères. Et il nous faudrait des heures et des heures pour commencer à lire tout ça. Il y a aussi d'ailleurs la ligne des beaux-pères. Oui, c'est vraiment comme vous avez dit. C'est une énorme gêne éthique.
Ça va, tout petit mot là-dessus. Il est bien évident, on pense que la Bible se différencie en ceci fondamentalement, qu'elle s'éloigne de plus en plus de ce qu'on sait être les cultes archaïques primitifs qui sont toujours des cultes maternels. Et c'est un cheminement extrêmement difficile avec toutes les apparitions de Dieu pour sanctionner justement cette épreuve excessive en dehors, pour s'éloigner justement de ce matriarcat fondamental, c'est ça qui serait celui des civilisations dans le contexte. Donc ce qu'on peut voir en effet justement dans le cas d'Isaac, c'est que, semble-t-il, il a le plus grand mal à se consoler de la mort de sa mère. Il reste très attaché à sa mère, au point que Rebecca est là pour le consoler d'avoir perdu sa mère. Et que, en un sens, Isaac a un rôle assez modeste, je dirais, dans le récit biblique. D'une part, il ne fonde pas de nouveau sanctuaire, ce qui est très important parce qu'à mon avis,
il a ouvert que son père, c'est son père.
Il continue ce qu'il son père, mais il faudra bien aider un ange Jacob pour avoir une nouvelle expérience de fondation de sanctuaire, donc d'épreuve du nom de Dieu, il me semble. Et justement, dans le cas d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il doit sentir cette espèce d'autoritarisme de Sarah sur cette conception de la génétique, justement, puisqu'il se dispute précisément dans le chapitre précédent. Il se trouve qu'il y a là une scène de ménage, comme j'ai dit, qui n'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'exiler Ishmaël et Agar, c'est très important, parce que Dieu, lui, il écoute la plainte de Agar et d'Ishmaël, il a la miséricorde de ce cri. Et Sarah ne l'a pas. Ça le dit.
Mais Dieu dit à Abraham, écoute Sarah.
Dieu dit à Abraham, écoute Sarah, mais en même temps, l'épreuve suit. C'est-à-dire, écoute là, oui, c'est parce qu'il s'agit bien de ce fils-là et pas de l'autre. C'est-à-dire que tu n'es pas père sous tous azimuts. Hein? Tu es père de celui-là. Tu l'écoutes pour celui-là. Mais cela dit, tu ne vas pas l'écouter, tu vas faire une épreuve encore plus compliquée qui est celle du nom de Dieu. À savoir que l'enfant n'est pas du tout un animal. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout cette progéniture qui reste en quelque sorte entre les jambes de sa mère. Voilà où ça nous entraîne, la Bible.
Vous avez introduit effectivement encore une autre dimension que le Midrash développe énormément concernant cette place d'Isaac entre Abraham et Jacob.
Ce que je veux dire, c'est qu'Isaac reste incestueux.
Oui, je l'avais entendu. Mais un peu comme c'est le Maharal que je cite, le deuxième. L'enseignement d'Israël au temps du deuxième temple, le deuxième royaume de Juda, est temple le premier et le troisième, le nôtre. Et il y a là un thème extrêmement important, je le signale simplement en passant, parce que la liste de qui tient beaucoup compte. Le premier de la lignée a sûrement un sens, Abraham, ça commence avec lui. L'achèvement, c'est sûrement un sens, Jacob est nommé Israël. Mais le drame de la destinée individuelle, c'est tous ceux qui sont entre le commencement et la fin, si j'ose dire. La liturgie rattache toujours à Isaac le drame de la destinée individuelle. Qu'est-il, Isaac? En pense précisément qu'il est entre Abraham et Jacob. Il est, vous m'excuserez les jeux de mots inévitables, il est fils du père et père du fils. Mais qu'est-il, lui? Et c'est là un thème extrêmement important.
Je voudrais, dans le cadre de ce qui a été dit, vous proposer une réflexion très très courte. J'ai trouvé dans un commentaire qui s'appelle Shem Shmuel, un des commentaires chassidiques du dernier siècle. Et il dit la chose suivante. Quand on a annoncé à Abraham la naissance d'Isaac, il a dit, il s'est mis à rire, et il a dit, « Hale ben me'a shalai valet, ben sarah bat shtishim shalai valet, j'ai 100 ans, ma femme a 90 ans, c'est une blague, hein. Est-ce que je vais avoir des enfants maintenant? » Oui. Et alors, le Midrash dit, Dieu a répondu, a parlé à Abraham, et lui dit, Abraham, c'est le istagninu tchelcha. Abraham et l'obanim. Abraham et l'obanim. Sarah et l'obanim. Sarah et l'obanim. Abraham, tu as raison de rire tant que tu étais, je traduis le mot à mot, dans les istagninu. C'est-à-dire quand tant tu étais enfermé dans le monde astral,
oui.
Dans le déterminisme astral,
naturel.
Astral naturel. À partir du moment où la vie abrahamique, à partir du moment où la famille d'Abraham commence, la définition de son identité, c'est la sortie
du déterminisme astral, et tu t'appelles, tu ne t'appelles plus Sarai, ma princesse, c'est-à-dire une dimension personnelle, ou Abraham, une dimension personnelle, tu atteins la dimension universelle, tu es Abraham, Abrahamon Goïm, le père de la multitude des nations, et Sarah, la princesse, c'est-à-dire dimension universelle. Mais ce n'est pas fini. Il semble donc que Isaac soit né d'une mère stérile. Et que si il y a eu un enfant, il y a un enfant, évidemment, il a été fait naturellement cet enfant, mais il est quand même le fils de la prière. Il est le fils de la sortie du monde naturel.
Voilà.
Un. Deuxièmement, quand nous allons voir la substitution de Sarah par Rebecca. Et nous arrivons au deuxième couple. Le deuxième couple est là. Yitzhak va se marier avec Rebecca. Mais Rebecca est stérile. Il ne peut pas donner d'enfant. Et le texte nous dit Vayatar Yitzhak Lachem Lenochah Ishto Kiakara. Que Yitzhak s'est mis à prier devant sa femme parce qu'elle était stérile. Vayatar Lo Hashem Vatahar Rika Ishto. Et parce que Dieu a écouté sa prière, sa femme est tombée enceinte. C'est une femme enceinte de la prière. C'est une femme qui est tombée enceinte parce qu'il y a eu la prière, en d'autres termes, elle était stérile et elle a quand même eu un enfant. C'est pas fini. La troisième femme, qui est Rachel, qui est Akeret Abayit. Vous savez que Rachel était la femme promise pour Yaakov. Léa, c'était la femme de...
Promise.
C'était la femme promise à Ésaü. Et si elle s'est mariée avec Jacob, dit le Shem Shmuel, c'est par transfert. C'est parce que Jacob devait jouer à la fois son propre rôle et le rôle d'Ésaü. Et quand il est devenu Ésaü, parce que Ésaü n'a pas assumé son rôle, eh bien, en devenant Ésaü, il était obligé de prendre la femme qui lui était promise. Et c'est pourquoi le Shem Shmuel dit qu'il a pu avoir sa femme qui lui était promise, c'est Rachel, et en même temps Léa, qui devait être la femme d'Ésaü et de qui devait être d'ailleurs les six enfants, et parmi lesquels d'ailleurs Yehuda, qui, et c'est là, vous voyez, d'après le Shem Shmuel, pourrait avoir une opposition entre Joseph et Yehuda, parce que provenant effectivement de deux mères, qui auraient dû avoir deux pères différents, mais où Jacob joue un double rôle.